marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous?
Et nous franchirons une nouvelle étape du temps avec la Statue de la Liberté.
Je descends à pied jusqu'à la pointe extrême de Manhattan, là où l'île se resserre entre l'Hudson et l'East River, et qui est le plus vieux quartier, la cellule mère de New York. L'envie irrésistible me prend d'aller pour la première fois de ma vie visiter la Statue de la Liberté. Et c'est ainsi qu'une demi-heure plus tard, je gravis les 403 marches qui permettent d'accéder dans sa tête, où 40 personnes peuvent tenir à l'aise, et à travers l'un de ses yeux, j'admire longuement le magnifique panorama de la baie sillonnée de navires.
C'est heureux, après des moments difficiles, de commencer l'année avec vous et en compagnie de la Statue de la Liberté. L'an tumultueux qui vient de s'achever, vous aurez peut-être lu le dernier Lucky Luke. L'auteur, il faudrait dire le promoteur de la statue, s'avance vers le cow-boy. Quel plaisir de rencontrer une légende de l'Ouest. Je me présente, Auguste Bartholdi. Ensuite, l'album adapte à sa façon le récit du projet, puis de la construction du monument. Il a raison d'ailleurs de prendre ses aises, puisque la version canonique de l'histoire de la statue tient de la légende. Et après tout, chacun a le droit de s'installer à l'intérieur, d'y prendre ses aises. Bartholdi lui-même y organisait des dîners. Libre de toute prétention esthétique, autre que celle d'impressionner par sa taille colossale, la statue est une figure ouverte. Quand elle a été conçue, les États-Unis ne se souvenaient plus guère de Lafayette. En 1870, ils préféraient la Prusse à la France. Mais si elle peut faire croire que l'amitié franco-américaine obéit à une magnifique continuité, tant mieux. Bartholdi ne pensait certes pas à la question de l'immigration en la concevant. Et pourtant, l'histoire de la statue lui est maintenant extrêmement liée. Plus elle se pose, plus l'intérêt pour la statue grandit. C'est ainsi. L'amitié franco-américaine présentement mise en échec, l'immigration repoussée avec la dernière énergie par Donald Trump, on voit quelques-unes des zones d'ombre qu'éclaire la torchère de la statue. Mais les films et les innombrables jeux vidéo qui lui sont consacrés montrent à satiété que chaque fois qu'elle est menacée, elle est sauvée. La liberté souffle de la mer et a ici sa demeure. Bonne année.
La marche de l'histoire sur France Inter.
Et à vous aussi, Catherine Oder.
Merci, ben bonne année. Bonne année à vous.
Je vous ramène à des temps très anciens. Vous avez été la commissaire d'une exposition.
Commissaire pour la France, hein, seulement.
La commissaire pour la France. D'une exposition, je ne sais dire quand, au moment du centenaire de l'érection à New York de la Statue de la Liberté. C'était une époque où on n'avait pas encore, avant que vous n'arriviez, vous et vos compères, commencé un vrai travail scientifique sur la fabrication de la statue.
Oui, c'est exact. Aucun travail n'avait encore été fait. Donc Pierre Provoyeur, commissaire général de l'exposition, John Hargrove, commissaire pour les États-Unis et moi-même, nous avons commencé par rassembler les sources qui sont multiples et diverses en France comme aux États-Unis et à tenter tout au moins d'écrire une histoire. À la fois histoire de l'art et histoire de la Statue de la Liberté.
Alors moi, je vais m'installer dans le récit canonique, qui peut être une légende. Il était une fois dans une demeure, dans la banlieue parisienne, à Glatigny, celle d'Édouard de la Boulaye, une réunion avec des descendants de Lafayette ou le frère de Tocqueville. Et il paraît que l'idée serait venue, pendant ce dîner, à Bartholdi, le sculpteur, d'un don auquel il pourrait collaborer, de la France à l'Amérique. C'était une époque importante, c'était la fin de la guerre de sécession.
Oui, c'était la fin de la guerre de sécession, et il était peut-être temps pour certains Français, dont la Boulaye en particulier, de raviver les amitiés franco-américaines.
Le souvenir de Lafayette, il était un peu effacé?
Oui et non, et je pense qu'il perdurait, mais c'est toujours été dès le début, hein, dès la quasi-guerre en 1797, on a toujours eu un écart entre l'histoire diplomatique et les amitiés franco-américaines, qu'on réutilise à bon escient quand le besoin s'en fait sentir.
Alors, à la fin de l'Empire, c'est déjà l'Empire libéral, mais les personnalités dont on parle ne sont pas très liées au pouvoir politique. Bartholdi, il est même carrément républicain, non ? C'est un sculpteur républicain, on peut dire ça ?
C'est un sculpteur républicain, tout à fait, et qui est alsacien. Et il a l'ambition de devenir un grand sculpteur.
On est toujours dans la légende canonique, telle qu'interprétée dans une fiction de la RTF en 1962. Bartholdi est encore très jeune, et il rêve donc sur un oreiller d'une figure féminine qui aurait inspiré la statue.
Je me souviens d'une journée que j'ai vécue près de la Bastille, à Paris, sur une barricade. Jamais ce souvenir ne s'effacera de ma mémoire. Près de cette barricade se tenait une jeune fille, belle, très belle. Elle tenait une torche à la main. Des hommes ont tiré sur elle. Elle s'est écroulée de tout son long. Je ne voyais plus d'elle que son bras et cette torche, ce flambeau qui continuait de brûler. Elle a levé la tête et puis elle a crié « En avant, soldats de la liberté !» Ils ont encore tiré. Sa tête est retombée comme une fleur trop lourde. Elle a lâché la torche. Le feu a pris aux barricades. Voilà ce que je n'oublierai jamais. Ce visage, ce cri, ce flambeau. Et ce qui est extraordinaire, invraisemblable, Jeanne, c'est que cette jeune fille vous ressemblait, trait pour trait. C'est elle que ce soir j'ai retrouvée en vous. Ce visage, votre visage que si souvent j'ai vu en songe. Dans mes rêves, cette jeune fille devenait statue dressée face au monde tout entier, criant la vanité des guerres et la grandeur du mot « liberté ».
On peut admettre cette interprétation, c'était avant le début des travaux scientifiques. Quant à Jeanne, on ne sait pas quand Bartholdi l'a rencontrée, si c'est aux États-Unis ou si c'est en France. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en 1870, 5 ans après le premier dîner, Bartholdi s'engage.
Il s'engage, mais au titre de la garde nationale. Et c'est avant tout pour défendre la patrie contre les Allemands. Il demande d'ailleurs, à partir de Paris, où il est capitaine, à l'état-major de la Seine, il demande à retourner à Colmar, où il va défendre un pont. Et ensuite, il va devenir, de façon, pour quelques mois, il sera l'aide de camp de Garibaldi, qui était venu offrir ses services à la France, à la République.
La famille de Bartholdi quitte l'Alsace. Lui n'a pas de possibilité réelle d'aller à Paris parce que c'est la commune qu'il n'approuve pas. Il va vers les États-Unis. C'est ça, son premier départ vers les États-Unis.
Absolument. En 71, il part début juin aux États-Unis avec déjà un projet très abouti de rechercher un lieu pour son projet de statue colossale, la liberté.
Vous avez dit colossale. Vous citiez tout à l'heure le nom de Pierre Provoyeur.
Bartholdi, artiste, a très vite compris, lorsqu'il était très jeune, qu'il ne ferait pas surface dans le monde artistique parisien et français s'il ne choisissait pas ce que j'appellerais vulgairement un créneau qui le démarquerait, qui le différencierait de ses collègues sculpteurs notamment. Et pour lui, l'art colossal, c'est une spécialité. Le dernier moment où l'on s'est vraiment occupé de sculpture colossale, c'est le XVIe siècle. Bartholdi lui-même considérait que Michel-Ange était un grand sculpteur colossal. Il avait raison si l'on regarde le David. Mais tout de même, ce qui s'est passé entre le XVIe siècle et le XIXe, c'est une espèce de permanence de la préoccupation pour le colossal. Les graveurs, les illustrateurs, les peintres, je dirais même, enfin, d'une manière générale, les premiers historiens d'art, ceux qui ont essayé de comprendre ce qui s'était passé dans l'histoire de l'art, ont constaté que l'art colossal était une chose inhérente à l'esthétique antique. Et donc, à chaque fois que l'Antiquité était à nouveau en question, le colossal refaisait surface. Et il se sert de cette tradition historique pour aboutir à la Statue de la Liberté et au Lion de Belfort.
Mais avant ces deux grandes réalisations, le général Rapp, qu'il avait fabriqué, il faisait 8 mètres de haut. Et puis, il avait pensé à un colosse pour l'Égypte.
Oui, oui. Et fort opportunément, puisqu'il pensait que ce serait l'Égypte éclairant l'Asie et au débouché donc du canal de Suez. En 69, pour son second voyage en Égypte, il essaye d'obtenir l'aval et les fonds surtout du Khedive, qui refuse le projet.
Et ce projet, il va le réutiliser pour la statue de la liberté. Revenu en France, n'ayant connu qu'un succès modeste aux États-Unis, il va pouvoir, nous sommes 10 ans après le premier dîner, lancer vraiment une souscription, toujours avec la boulet.
Alors, il lance la souscription avec la boulet, mais dès qu'il rentre des États-Unis, il a quand même obtenu la promesse du président Grant d'avoir Bedloe's Island, qui est un site militaire. Il dîne à nouveau, cette fois-ci, avec la boulet en 71, et là, le projet prend forme. Donc en 75, on en est au début de la campagne de levée de fonds de la statue.
Avec présenté aux gens qui sont sollicités, l'image.
Oui, Bartholdi a déjà mis en scène la statue dans la rade de New York et faisant face donc à Manhattan.
Et alors, ce sont les dessins, des dioramas, des panoramas, des figurines en terre cuite, que
sais-je ? Oui, il va utiliser absolument tout ce qui est possible à son époque, donc des dîners de souscription classiques, une représentation à l'opéra, avec une cantate de Gounod. Il va utiliser un diorama en 78 dans les Tuileries. Également, la tête de la statue sera exposée à l'exposition universelle de 1878. Et une loterie aussi, pour permettre de lever des fonds qui sont finalement considérables. On parle de 1 million de francs de l'époque. Or, le salaire de l'instituteur annuel était de 1200 francs.
L'atelier est installé où et comment peut-on faire entrer, à mesure qu'elle grandit, la statue de la liberté ?
Mais c'est un processus assez long. Les ateliers sont rue de Chazelle, donc près de la gare Saint-Lazare, en dehors de Paris, hein, en dehors de la barrière de l'Octroi. Et on part de petites maquettes, hein, une trentaine de centimètres, les premières esquisses. Un modèle ensuite du qu'on appelle le comité français, hein, pour la statue de la liberté, un modèle d'1,25 m à peu près. Ensuite, on passe à des agrandissements au 16e, au quart. Et quand on atteint un plâtre qui fait 11 mètres de haut, il est à ce moment-là coupé en sections. Et à partir de là, avec un système complexe de charpente et de lattis, on agrandit la statue par morceaux à son échelle réelle. Une couche de plâtre est passée dessus, puis on va construire des gabarits de bois qui viennent s'encastrer sur ces morceaux donc en plâtre pour marteler le cuivre de 2,5 mètres sur les gabarits.
La statue, elle sort du toit des ateliers ?
Ah bien sûr ! Soit on dégage la verrière, soit on est dans une cour d'atelier.
Bien qu'elle soit visible de partout, c'est un privilège de la visiter en pénétrant dans l'atelier, comme l'a fait Lucky Luke, selon Jules, et comme l'a fait sûrement Victor Hugo, l'année
d'avant
Victor sa mort.
Hugo. Mais Victor Hugo vient tout à fait à la fin. Alors, il a été sollicité en 1876 par Gounod pour écrire les paroles de sa cantate. Il ignore totalement cette demande et il revient en 84 avec sa petite fille, effectivement, pour voir ce que tous les Parisiens voyaient et ce qui était relayé par le petit journal qui était vendu à des centaines de milliers d'exemplaires à l'époque.
Mais entre nous, Catherine Oder, c'est pas un prodige esthétique.
Ah non,
c'est fait pour fédérer et pour que tout le monde soit d'accord. C'est un prodige technologique, en fait.
C'est un prodige technologique. Le problème qui se pose, c'est un problème de durabilité, en fait, de la statue, puisqu'elle doit résister au vent de la baie de New York et également à un effet, à la corrosion, bien sûr, mais aussi à un possible effet de pile. L'inventeur de la première structure interne, c'est Viollet-le-Duc, qui ne résout pas le problème. Et au début des années 1880, les ateliers Eiffel sont sollicités par Bartholdi pour trouver une solution. Cette solution, c'est effectivement une structure en fer pudelé et une robe de cuivre qui est en quelque sorte en suspension et isolée de la structure de fer pour éviter tout problème et pour pouvoir bouger facilement.
Là, elle est à Paris. On verra avec l'aide de Lucky Luke dans un instant comment elle est arrivée à New York, où elle a été installée sur son piédestal en 1886, ne cessant d'inspirer depuis toutes sortes d'œuvres de fiction. Ça, c'est une comédie musicale de 1949. Les paroles, Irvin Berling. La mise en scène, c'était Robert Sherwood. Et la chorégraphie, le grand Jerome Robbins.
Citizens of New York, I greet you with the $100,000 check, the money that my readers have contributed for the pedestal of the statue. Yeah! Citizens of New York, I greet you with the news that soon our flag will be unfurled on the most expensive statue in the world.
On the most expensive statue in the world.
When it's finally installed, tell us what will it be called?
When it's finally installed, what will it be called?
When we finally install it, what's the difference what we call it? It's the best that money can buy, and will stand 300 feet high. And I understand, before we're through, the cost may not be known.
$100,000 for the pedestal alone.
And our flag will soon be unfurled on the most expensive statue in the world.
And the most expensive statue in the world.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
La statue de la liberté en ce premier jour de l'année nouvelle en compagnie de Catherine Oder. Alors je disais que la statue de la liberté a inspiré nombre de fictions. On pourrait s'arrêter un instant à l'album de Lucky Luke qui va être traduit en américain. La sortie est prévue pour le mois de mars de 2019. L'album porte sur les tournées de Bartholdi aux États-Unis pour rapporter de l'argent et puis surtout sur ce moment décisif. 85-86, une fois qu'on a trouvé de l'argent pour construire le piédestal, le transport aux États-Unis de la statue. Ça n'a pas été facile de trouver cet argent pour le piédestal.
Non, ça a même été très compliqué. D'abord, le projet originel, c'était que la statue soit prête, mais pour 1876, c'est-à-dire pour l'exposition du centenaire de l'indépendance des États-Unis à Philadelphie. Et en fait, il n'y aura que la torche. La torche, d'ailleurs, ne bouge pas. Elle reste à Philadelphie et elle va ensuite à New York et c'est tout. En revanche, dans les années 84-85, là on est vraiment en fin de course, il faut se dépêcher. Il n'y a toujours pas d'argent pour le piédestal et c'est donc une grande campagne de presse pour dans tous les journaux de toutes les grandes villes américaines, qui est là aussi un échec parce que les lecteurs disent ouvertement que c'est à New York de payer. Et c'est grâce quand même au démocrate Pulitzer et The World que les 100 000 dollars sont atteints. Pulitzer fait du storytelling parce qu'en fait, il y a très peu de petites souscriptions. Ce sont des souscriptions importante et générée par un comité puissant qui, d'ailleurs, a ses racines dans la guerre de sécession et l'abolitionnisme.
C'est pas comme dans l'album de Lucky Luke où on voit Bartholdi collectionner toutes sortes de petites sommes qui viennent de gens modestes, voire d'indiens séduits. Enfin, Lucky Luke reproduit HB, Jules, sur une double page, la fameuse scène du film La cinquième colonne de 1942 de Hitchcock. Mais vous vouliez parler davantage d'Elia Kazan.
Oui, alors Elia Kazan, c'est intéressant parce que dans America, America, évidemment, on a une très belle vision traditionnelle, on peut dire, de l'arrivée de l'immigrant qui aperçoit la Statue de la Liberté comme une icône salvatrice. La réalité est un petit peu différente. D'abord, vous avez rappelé que effectivement, Bartholdi ne pensait pas du tout à cette problématique-là. Deuxièmement, dans les années, au début, au tournant du siècle, Emma Lazarus va inscrire un poème sur le piédestal de la statue qui fait allusion effectivement aux immigrants, mais immédiatement cela suscite des caricatures dans les journaux où on voit la statue se pincer le nez, relever ses jupes et rejeter des grappes de migrants plutôt de l'Europe du Sud qui essayent de grimper sur le piédestal. Et c'est vraiment en 1920, finalement, avec la mise en place des quotas d'immigration, que la statue prend toute sa dimension icône de l'accueil aux migrants.
Mais c'est parce qu'il y avait eu, comme on dirait aujourd'hui, un déferlement de migrants dans les années qui avaient suivi l'érection de la statue. Ici, nous sommes un peu avant l'époque que vous évoquez, dans le film Golden Door, d'Emmanuel Crialès.
What day is it today? On est quel jour aujourd'hui? Quel jour sommes-nous?
J'aimerais bien le savoir. Quel jour sommes-nous?
Comment vous appelez-vous?
Mancuso Salvatore.
D'où venez-vous?
Petalia, Soutane.
Quel âge avez-vous?
37 ans.
37 ans.
Vos mains, montrez vos mains.
J'ai oublié.
Mettez-les bien à plat.
Lève tes mains. Écarte les doigts.
Écartez bien les doigts.
Turn them around.
Tournez-les.
Tourne tes mains.
Ouvrez la bouche.
Now, open your mouth.
Ouvrez grand la bouche.
Encore.
Tirez la langue.
Breathe deep.
Encore.
Tirez bien la langue.
Encore plus. Right. Encore plus. Sur le côté.
Bon, ça va fermer la bouche.
De l'autre côté.
Ouvrez plus grand.
Allez.
Encore. Grand. Respirez.
L'idée d'un musée de l'immigration, non loin de la statue, ça vient de quand? C'est organisé comment? Ça a été restauré après avoir été aménagé?
Alors l'idée est venue au moment du centenaire de la statue de la liberté. À ce moment-là, Ellis Island n'était même pas... Non, ça n'était pas visitable. C'était vraiment totalement en ruine, avec quelques éléments qui restaient, envahis de végétation.
C'est le centre où s'était déroulée la scène qu'on vient d'entendre.
Absolument, et où l'on, entre guillemets, où l'on triait les migrants. Donc cette idée-là, elle a vraiment été impulsée à ce moment-là, et je dois dire que... Je ne sais plus exactement en quelle année la rénovation a été terminée. En tout cas, c'est un lieu très très apprécié de tous les Américains qui ont la possibilité... Enfin, quand il a ouvert, en tout cas, ça je m'en souviens très bien, la possibilité qui à l'époque apparaissait incroyable, c'était de pouvoir retrouver ses ancêtres par les bateaux, de retrouver le bateau qui les avait amenés à New York.
Oui, la question des familles était un peu résolue comme ça, mais la question du respect dû à chaque communauté, entre guillemets. Les Polonaises sont plaintes d'avoir été mal représentées, les Italiens se sont plaints d'avoir été mal représentés, les Juifs se sont plaints d'avoir été caricaturés.
Oui, tout à fait. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle vague importante, enfin les nouveaux arrivants à New York subissaient des conditions de vie extrêmement difficiles et un rejet de ceux qui étaient arrivés quelque temps auparavant, peut-être une dizaine d'années avant. Non, c'était une période assez compliquée, puis de très très vite, il fallait que ces immigrants soit s'intègrent dans une communauté qui en général ne parlait toujours pas ou très mal l'anglais, soit prennent la décision de quitter New York et de trouver du travail ailleurs.
Dites-moi, Catherine Oder, racontez-nous maintenant votre première visite à la Statue de la Liberté. Vous occupiez la partie française de l'exposition d'il y a 30 ans, mais elle était en quel état, la Statue de la Liberté, avant cet anniversaire? Elle n'a pas toujours été parfaitement entretenue.
Oh, on peut peut-être pas dire qu'elle n'était pas parfaitement entretenue, mais comme tout monument, surtout un monument quand même en cuivre et en fer, elle avait forcément vieilli. Donc le temps était venu de rénover complètement la statue. À cette occasion d'ailleurs, des artisans français sont partis avec force publicité aux États-Unis, notamment pour redorer la torche et réparer effectivement un certain nombre de points de la statue qui nécessitait d'être revu. Le musée aussi était un petit peu vieillot, donc il fallait, dans le socle, il fallait donc le refaire. Aujourd'hui, il va y avoir une nouvelle scénographie qui va bientôt se mettre en place à nouveau.
On en est à 3 millions de visiteurs. Dans les années 1960, on était à 1 million de visiteurs. La statue étant une cible pour le terrorisme, les conditions d'accès sont extrêmement difficiles. Et alors elles sont quasi impossibles, sauf pour des visiteurs privilégiés, quand il s'agit de pénétrer très avant dans l'intérieur de la statue. Ce que vous avez fait.
Ah oui, mais c'était une période aujourd'hui révolue, c'est-à-dire justement en 1986, au moment où la statue rénovée réouvrait au public. J'ai eu cette chance d'être la première première touriste, entre guillemets, puisque je ne l'étais pas vraiment, à grimper tout en haut de la statue, jusque dans la couronne, jusque dans la tête. Et en même temps, cette joie était gâchée parce que j'entendais derrière moi un petit garçon qui était tout content et qui disait « je vais être le premier, je vais être le premier ». Et je lui disais « c'est épouvantable, il va surtout me voir en arrivant et il va être assez déçu ».
Hey, vous savez, quand on est à l'intérieur de la statue, les difficultés du monde continuent de vous y assaillir alors qu'on voudrait s'y lever. 1961, la visite de Samy Simon, le correspondant de Radio France qu'on entendait au tout début de cette émission, à New York.
J'admire longuement le magnifique panorama de la baie sillonnée de navires. Et c'est alors qu'une jeune fille à mes côtés, ayant ouvert le transistor qu'elle porte en bandoulière, une voix en jaillit en français et que j'entends méduser les paroles suivantes.
Des renseignements nombreux, précis et concordants permettent au gouvernement de penser que les auteurs du coup d'État d'Alger envisagent, à très brève échéance, une action de surprise et de force sur la métropole et en particulier sur la région parisienne, afin de préparer une prise du pouvoir. Je tiens à dire aux Français et notamment aux habitants de la région parisienne que le gouvernement a pris des mesures pour s'opposer à cette entreprise. Des ordres ont été donnés aux unités de repousser par tous les moyens, je dis bien par tous les moyens, cette folle tentative. Le gouvernement est certain que la population tout entière qui fait confiance au général de Gaulle, non seulement réprouvera de tout son cœur cette aventure, mais aidera de toutes ses forces à la défense de la nation.
C'est l'appel de Michel Debré, alors Premier ministre, et dont toutes les stations de New York qui suivent d'heure en heure les événements qui bouleversent la France passent et repassent de larges extraits. Et par une coïncidence extraordinaire, une sorte de mystérieux symbole, il se trouve que cet appel angoissé, je viens l'entendre retentir à l'intérieur de la tête même de la Statue de la Liberté.
À l'intérieur de la Liberté, on se croit en sécurité. Comme le premier de l'an, on se croit dans un état de tranquillité. La Statue de la Liberté, ben c'est un belvédère d'où on doit observer et combattre les dangers du monde. Merci à vous, Catherine Oder, et bonne année.
Bonne année encore.
L'émission a été réalisée par Audrey Ripouille avec à la technique Paul Percheron, la préparation. On va souhaiter bonne année à l'équipe de la Marche de l'Histoire, Frédéric Martin, Elinka Negulesco, Franck Olivard.